VOA Afrique, le monde aujourd'hui. À Washington.
Le Monde Aujourd'hui, édition du lundi 4 avril 2022. Jean-Roger Bion à ce micro. Bonsoir à tous. À la une de nos informations, le Burkina Faso veut diversifier ses partenaires dans la lutte contre les groupes armés. Le Premier ministre Albert Ouédraogo a livré aujourd'hui sa feuille de route devant le Parlement de transition. La justice rwandaise maintient la peine de 25 ans de prison en appel contre Paul Rusesabagina, le héros du film Hôtel Rwanda. Nouvelle attaque des ADF en RDC, la société civile de Beni proteste contre l'état de siège. La Russie dément toute responsabilité dans les morts de Boutcha, vive réaction dans le monde occidental. Ne manquez pas dans cette session d'information la Minute Éco et les sports, mais tout d'abord, le journal. Au Burkina Faso, le Premier ministre a présenté aujourd'hui la feuille de route de la transition. Le principal point, l'insécurité grandissante que connaît le pays. Il a appelé à l'union des Burkinabés pour faire face au terrorisme. De Ouagadougou, notre correspondant, Lamine Traoré.
Devant les 71 membres de l'Assemblée législative de la transition, le Premier ministre Albert Ouédraogo s'est focalisé sur la lutte contre le terrorisme. En ce qui concerne la coopération militaire avec d'autres États, l'option est désormais, selon le Premier ministre, de diversifier les partenariats afin d'optimiser les atouts spécifiques de chaque partenaire, indique-t-il. Pour lui, ces partenariats seront fondés sur le respect de l'indépendance territoriale et la sincérité. Albert Ouédraogo a expliqué le contexte de l'avènement de ce nouveau régime qui a été salué par les Burkinabés. L'agenda de la transition sera bâti autour de 4 objectifs stratégiques, affirme le Premier ministre. Lutter contre le terrorisme et restaurer l'intégrité du territoire. Répondre à la crise humanitaire. De refonder l'État et améliorer la gouvernance. Et enfin, œuvrer à la réconciliation nationale et la cohésion sociale. Il a rappelé que l'insécurité a fait plus d'1 800 000 déplacés internes dans 277 communes d'accueil. Dans ce contexte de transition, il n'y a ni majorité ni opposition, d'où l'impérieuse nécessité de se dresser comme un seul homme pour sauver l'essentiel, à savoir notre patrie, a terminé le Premier ministre qui s'est par la suite prêté aux questions des députés. Lamine Traoré, Ouagadougou, VOA Afrique.
Merci Lamine. La France souhaite l'ouverture d'enquêtes nationales et internationales sur des soupçons d'exactions massives dans un village du centre du Mali qu'auraient commises des membres de l'armée malienne avec l'appui de paramilitaires russes du groupe Wagner, a déclaré aujourd'hui le ministère français des Affaires étrangères. L'armée malienne a annoncé samedi avoir tué plus de 200 djihadistes lors d'opérations dans le village de Moura, dans le centre du Mali, entre le 23 et le 31 mars. Les États-Unis ont déjà jugé extrêmement troublantes les informations faisant état d'un nombre élevé de tués à Moura. Nous reviendrons sur les événements de Moura dans la partie magazine de cette édition. La Cour d'appel du Rwanda confirme la condamnation à 25 ans de prison pour terrorisme de l'opposant Paul Rusesabagina, rendu célèbre par le film Hôtel Rwanda. La Cour rejette l'appel du parquet qui souhaitait une peine plus lourde. Le point avec Abdou Ramandia.
Le tribunal estime que sa peine ne doit pas être alourdie car les 25 ans qu'il a obtenus sont conformes au poids de ses crimes et le tribunal maintient sa peine, a déclaré le juge au terme d'une journée d'audience. Paul Rusesabagina a été condamné en septembre à 25 ans de prison pour avoir fondé et appartenir au Front de Libération Nationale, un groupe armé accusé d'avoir mené des attaques meurtrières au Rwanda en 2018 et 2019. Le parquet qui avait requis la prison à perpétuité avait fait appel, souhaitant une peine plus lourde. Rusesabagina, âgé de 67 ans, et sa famille ont toujours démenti ces accusations et dénoncé un procès destiné à museler un opposant, selon eux. Il n'était pas présent lundi à la lecture du verdict. Il vivait depuis 1996 en exil aux États-Unis et en Belgique avant d'être arrêté à Kigali en 2020 dans des circonstances troubles à la descente d'un avion qu'il pensait à destination du Burundi.
Dialogue inter-tchadien, le conseil de commandement militaire pour le salut de la République, un groupe rebelle actif dans le sud de la Libye et le nord du Tchad a décidé, selon lui, à contre-cœur, de se retirer du pré-dialogue, évoquant notamment dans un communiqué l'agenda caché de la junte militaire. L'un des buts affichés du chef de la junte au Tchad, le général Mahamat Idriss Déby Itno, est d'amener les groupes armés à la table d'un dialogue national inclusif prévu le 10 mai avec les opposants. oppositions politiques et armées. Dans l'est de la République démocratique du Congo, une nouvelle incursion de rebelles ADF a fait plus d'une dizaine de morts dimanche soir près de Beni, dans le Nord Kivu. Des mouvements citoyens appellent à manifester contre l'état de siège qu'ils jugent inefficace. Le point avec Nani Talani.
Des rebelles ADF, selon les autorités locales, ont attaqué le village de Massambo hier soir. Une dizaine de personnes ont été tuées à l'arme blanche et deux kidnappées, selon une ONG des droits humains, Ewini Wabenga, chef de la localité. Ils ont attaqué les personnes qui étaient dans les buvettes, pillé des biens et brûlé des maisons. Selon des rescapés, les assaillants demandaient les noms des personnes et, si vous étiez musulman, ils vous relâchaient, a soutenu Gilbert Kambalé, responsable d'une ONG de défense des droits humains. Des mouvements citoyens de Beni ont appelé à une série de journées villes mortes à partir de ce lundi pour décrier l'insécurité persistante. Nasson Mourara, porte-parole de la police, assure que 11 jeunes ont été interpellés à Beni pour avoir détruit des équipements d'éclairage public. Les manifestants protestaient aussi contre la condamnation vendredi à un an de prison de militants arrêtés lors d'une précédente manifestation contre l'état de siège.
RDC toujours, au moins 8 personnes ont été tuées dans la nuit de samedi à dimanche dans un nouveau déraillement de trains de marchandises dans la province du Lualaba, dans le sud-est du pays. En plus des 8 morts, il y a eu 20 blessés, a déclaré dans l'après-midi Josué Muyumba, chargé de la communication du gouvernement provincial. Ce déraillement survient 2 semaines après celui qui s'est produit dans ce même village de Bouyofué et qui a fait au moins 75 morts et 125 blessés, selon le gouvernement de Kinshasa. La conférence épiscopale de la République démocratique du Congo, CENCO, a appelé tout prêtre catholique ayant un enfant à abandonner la soutane et à aller s'occuper de sa progéniture. Les évêques disent par ailleurs leur joie de constater que de nombreux prêtres vivent fidèlement leur engagement sacerdotal. Cette exhortation intervient à quelques semaines de la visite du 2 au 5 juillet du pape François dans le pays. Une semaine après l'attaque d'un train dans le nord-ouest du Nigeria par des hommes armés, plus de 168 personnes manquent toujours à l'appel, a indiqué dimanche soir la compagnie nationale ferroviaire. Au moins 8 personnes ont été tuées et un nombre indéterminé enlevé le 28 mars lors d'une attaque d'hommes armés qui ont fait exploser une bombe sur la voie et ouvert le feu sur le train reliant Abuja, la capitale à Kaduna, dans le nord-ouest du Nigeria.
VOA Afrique, à Washington, vous êtes à l'écoute du monde aujourd'hui.
La découverte de nombreux cadavres, certains les mains attachées dans le dos, à Boucha, ville de la banlieue de Kiev, reprise la semaine dernière par les forces ukrainiennes à l'armée russe, a suscité une vive émotion aux États-Unis et en Europe. Moscou rejette catégoriquement toutes ces accusations. Le point avec Rosine Mouzné-Zéro.
Plusieurs capitales européennes et l'ONU ont exprimé leur indignation après le retrait russe de Boutcha dans la banlieue de Kiev et la découverte sur place de nombreux corps dans les rues ou des fosses communes. Après la diffusion des images, l'Union européenne discute de nouvelles sanctions contre la Russie. Moscou dément toute exaction et a annoncé une enquête sur cette provocation haineuse pour discréditer les forces russes en Ukraine et demander une réunion du Conseil de sécurité de l'ONU pour statuer sur ces exactions commises, selon elle, par des radicaux ukrainiens à Boutcha. Le secrétaire général adjoint de l'ONU pour les affaires humanitaires, Martin Griffiths, est arrivé dimanche soir à Moscou et devait se rendre à Kiev pour rechercher un cessez-le-feu humanitaire en Ukraine. À la gare de Kramatorsk, dans l'est du pays encore sous contrôle de Kiev, plusieurs centaines de personnes attendent leur train pour fuir vers l'ouest, par crainte d'être encerclées par les Russes.
Plus de 4,2 millions de réfugiés ukrainiens ont fui leur pays depuis l'invasion ordonnée par le président russe Vladimir Poutine le 24 février, selon des chiffres du Haut Commissariat aux réfugiés. Le HCR recensait exactement 4 215 047 réfugiés ukrainiens ce lundi. L'Europe n'a pas connu un tel flot de réfugiés depuis la Deuxième Guerre mondiale. Berlin expulse 40 diplomates russes. La chef de la diplomatie, Annalena Baerbock, a souligné que ses employés de l'ambassade l'ambassade de Russie constitue une menace pour ceux et celles qui cherchent une protection chez nous. L'Allemagne accueille plus de 300 000 réfugiés ukrainiens. Ces expulsions interviennent après des annonces similaires ces derniers jours de plusieurs pays de l'Union européenne. Les États-Unis vont tenter d'obtenir la suspension de la Russie du Conseil des droits de l'homme de l'ONU en réponse aux images de Boucha, ville ukrainienne où ont été retrouvés les cadavres, a annoncé aujourd'hui l'ambassadrice américaine aux Nations Unies. Nous ne pouvons pas laisser un État membre saper tous les principes qui nous tiennent à cœur. Au Conseil des droits de l'homme de l'ONU a tweeté l'ambassadrice Linda Thomas Greenfield. Et puis l'artiste John Batiste a remporté dimanche le Grammy Award du meilleur disque de l'année pour We Are, inspiré du mouvement Black Lives Matter, tandis que Silk Sonic a reçu deux récompenses lors d'une cérémonie marquée par l'appel effectué par le président ukrainien Volodymyr Zelensky. Vous écoutez VOA Afrique, ce sera tout pour le journal. À présent, la Minute Éco avec Claire Morin-Gibou.
Le Togo va recevoir 100 millions de dollars du fonds IDA de la Banque mondiale pour soutenir ses efforts de développement. Selon l'agence Ecofin, ces ressources devraient aider le pays à soutenir son programme de croissance inclusive et ses réformes fiscales. Ce second décaissement doit permettre au Togo d'améliorer la viabilité financière et la prestation de services dans les secteurs de l'énergie et de l'eau. Au Sénégal, le président Macky Sall a appelé hier soir à une mobilisation générale pour accroître et valoriser davantage les produits agricoles, d'élevage et de pêche face au risque élevé de pénurie et de flambée des prix en raison de la crise mondiale. Dans son allocution à l'occasion du 62e anniversaire de l'indépendance du pays, le chef de l'État a indiqué avoir fait baisser les prix des denrées de première nécessité comme le riz, le sucre et l'huile. Le Kenya fait face ce lundi à une nouvelle journée de pénurie de carburant sur fond de différends entre fournisseurs et gouvernement. Le gouvernement impute cette pénurie à une ruée sur les stations-service observées depuis ce week-end, alors que des fournisseurs de carburant accusent le gouvernement d'importants arriérés de subventions.
Place maintenant au sport avec Nani Talani.
Bonsoir Jean-Roger, bonsoir à tous. Les 8 clubs qualifiés pour les quarts de finale de la Coupe de la Confédération africaine de football sont connus après la 6e et dernière journée des matchs de poule joués hier dimanche. La RDC sera représentée par le TP Mazembe, la Tanzanie par Simba SC, l'Afrique du Sud par Orlando, le Maroc par Berkane. La Libye a pu envoyer deux formations en quart, Al Ittihad et Al Ahly Tripoli. Idem pour l'Égypte qui a pu obtenir des tickets pour Pyramide FC et Al Masry. En Ligue des Champions, les 8 clubs qualifiés pour les quarts de finale sont également connus. L'Angola sera représenté par Petro Luanda, l'Afrique du Sud par Mamelodi Sundowns, l'Égypte par Al Ahly, la Tunisie par l'Espérance de Tunis, le Maroc par le Wydad Casablanca et le Raja Casablanca, enfin l'Algérie par l'Entente sportive sétifienne et le Chabab Riadi de Belouizdad. Le tirage au sort des quarts est prévu demain mardi. Les championnats européens ont presque tous repris après la trêve internationale. Plusieurs joueurs africains se sont distingués le week-end. Voici quelques-uns que nous avons choisis avec l'aide de Sport News Africa. En Belgique, le Nigérian Paul Onuachu a signé un triplé avec le RC Genk qui a écrasé Eupen 5-0. Le Sénégalais Abdoulaye Seck a offert la victoire au Royal Antwerp sur la pelouse d'Old Everly 1-0. Le Congolais de la RDC, Yohan Wissa, a marqué un but avec Brentford qui a battu Chelsea 4-1 en Angleterre. En France, Marseille s'est imposé à Saint-Étienne 4-2 grâce notamment au Sénégalais Baba Dieng et au Marocain Amin Harit. Le Gabonais Denis Bouanga a signé un but pour l'AS. Le Camerounais Ibrahim Amadou a inscrit l'unique but de Metz, dominé chez lui par Monaco 1-2. En Italie, la Spezia a battu Venise 1-0 grâce à l'unique but du Ghanéen Emmanuel Guiassi. L'Ivoirien Ahmed Traoré a réduit le score pour Sassuolo, qui a perdu 1-2 face à Lazio Rome. En Serbie, Metalac a pris le dessus sur le Spartak Subotica avec un but du Congolais de Brazzaville, Prestige Mbungu. En Bulgarie, le Dogoret Razgrad a battu Botev Plovdiv grâce au but du Béninois Olivier Verdon et du Ghanéen Bernard Tekpété. Pour terminer, en NBA, les Lakers voient les barrages qualificatifs pour les playoffs s'éloigner de plus en plus après leur 6e défaite de rang concédée contre Denver hier.
Page de sport signée Nani Talani.
Le Monde aujourd'hui, VOA Afrique.
Vous êtes à l'écoute du Monde aujourd'hui sur VOA Afrique. Jean-Roger Billon de retour avec vous pour les dossiers du jour. Au Mali, les forces armées ont déclaré samedi avoir tué 203 terroristes lors d'une opération dans le centre du pays, plus précisément dans le village de Moura. Mais certains témoignages contredisent le bilan du gouvernement. VOA Bambara a pu joindre un témoin oculaire des événements, un habitant de Moura. Au micro de Bagassi Koura, il raconte ce qui s'est passé dans son village.
Alors, que vraiment, on en a vers 11h00, il y a eu un barreau d'amener depuis où j'ai gagné.
D'abord, trois hélicoptères sont arrivés à 11h le dimanche. À 13h, deux autres avions sont arrivés. C'était le jour du marché de Moura. Les tirs ont commencé de 11h à 15h ou 16h. De dimanche à jeudi, ils ont tué plus de 200 personnes. Ils les ont jetées dans une fosse commune et ont mis le feu. Vendredi, on a ramassé 5 corps en brousse. En plus des 200 personnes que l'armée a enterrées, nous avons pu compter 377 corps.
Alors, l'armée affirme avoir tué des djihadistes. Qu'est-ce que vous en dites?
Bien sûr, on ne peut pas nier qu'ils ont tué des djihadistes. Ils ont tué des djihadistes. Mais sur 10 personnes tuées, seule une personne était djihadiste. Les plus nombreux parmi les morts sont des civils tués. Jusqu'à présent, on continue de ramasser des corps. Avant-hier, on a ramassé 5 corps dans la brousse. Hier, on a ramassé le corps d'une femme en brousse. On ne sait pas combien on va ramasser aujourd'hui.
Et est-ce que vous savez ceux qui ont mené cette opération? S'agissait-il seulement des soldats de l'armée malienne ou y avait-il d'autres personnes à leur côté?
Les deux premiers hélicoptères sont descendus vers ma maison. Un a atterri dans ma cour intérieure. C'était tout blanc. Il n'y avait aucun noir parmi eux. Ils sont montés sur le toit de ma maison. Ils étaient tous des blancs. Ils ont fermé les portes de ma cour et ils ont tiré pendant 1 à 2 heures. Ensuite, ils sont descendus. Ils ont offert des biscuits et du jus aux petits enfants de 1, 2 ou 3 ans qui étaient chez moi. Le dimanche, de 11h jusqu'à 13h, moins quelques minutes, d'autres avions sont arrivés. Cette fois-ci, il n'y avait aucun blanc parmi eux.
Restez avec nous à Bamako, au Mali, sur le 102 FM, CVO Afrique, 24h sur 24.
Direction le Togo, à cause du coronavirus, cela fait presque 2 ans déjà que l'accès aux détenus des prisons civiles a été interdit aux familles, aux avocats et aux ONG qui leur apportent des aides. À la faveur de l'allègement récent des mesures restrictives, des associations de défense des droits humains partent en croisade pour qu'ils soient aussi étendus au centre de détention afin que les prisonniers puissent de nouveau avoir le droit de visite. Le reportage de notre correspondant à Lomé, Kossi Wusu.
Assise au milieu de sa cour dans le quartier Adetikope-Zobeji, à l'extrême nord de la capitale, Mariam n'en peut plus de cette attente de visite à son frère, détenu à la prison civile de Lomé. Le pire pour elle, c'est de n'avoir aucune information sur les conditions de vie de son frère.
Depuis l'arrivée de la pandémie du coronavirus et qu'ils ont interdit les visites dans les prisons, je n'ai plus revu mon frère. Cela fait 2 ans que nous sommes sans nouvelles et cela nous inquiète. Nous essayons de lui apporter à manger, mais ce sont les agents pénitentiaires qui reçoivent la nourriture. Est-ce qu'on la lui donne? Je n'en sais rien. On n'en peut plus. Si on peut nous permettre de reprendre les visites, j'en serais très heureuse.
Tout comme Mariam, des associations de défense des droits humains montent au créneau, d'autant que toutes les restrictions dues à la COVID-19 se sont allégées. Les lieux de culte sont ouverts, les activités sportives et culturelles ont repris, de même que les grandes réunions internationales. Elles interpellent le gouvernement d'élargir les prisonniers à la faveur des dernières mesures d'allègement afin que les activités reprennent dans les centres de détention du pays, notamment les visites aux détenus. Kao Acholi est le président de l'association des victimes de la torture au Togo, ASVITO.
Vous savez, pour avoir été moi-même prisonnier, les visites sont d'une importance très capitale et les visites apportent beaucoup de réconfort aux détenus. Et il est vraiment important que les visites reprennent.
Les conséquences néfastes liées à l'absence des visites aux détenus durant cette longue période de 24 mois sont diverses et variées. Marcus Dablaka, membre du collectif des associations de lutte contre la torture CACIT Togo.
Les psychologues que nous avions rencontrés, par exemple à la prison civile de Lomé, nous ont dit clairement qu'il y a le taux de violence qui a augmenté. Il y a des détenus qui ont développé des comportements anodins et les gens sont devenus plus tristes et frustrés. C'est le cas d'un monsieur qui est traumatisé et qui a été admis au centre des personnes en démence à Zébévi. Donc la visite est très importante dans la vie d'une personne en détention. C'est pourquoi nous luttons pour le rétablissement des visites.
Il faut donc parer au plus pressé. Selon le CACIT, depuis le mois d'août 2021, une lettre ouverte dans ce sens a été envoyée au président de la République qui a instruit les ministres concernés d'agir en conséquence. Il est peut-être temps que ces instructions soient traduites dans les faits. Kossi Wusu Lomé pour VOA Afrique.
Retrouvez-nous sur VOA Afrique 24h sur 24 à Lomé sur 102.3 FM.
En Côte d'Ivoire, près de 70 000 élèves en fin de cycle primaire n'ont pas d'extrait de naissance, un document nécessaire pour passer le concours du CEPE, le certificat d'études primaires élémentaires et le concours d'entrée en sixième. L'État ivoirien a engagé une course contre la montre pour résoudre ce problème. Le reportage de notre correspondante à Abidjan, Delphine Bouise.
Le ministère de l'Éducation nationale organise une opération spéciale d'établissement d'actes de naissance. Elle a démarré le 21 mars dernier et prendra fin dans quelques jours le 8 avril. Monsieur Mamadou Fofana, directeur de la stratégie, de la planification et de la statistique au sein du ministère de l'Éducation nationale.
Aujourd'hui, il y a 69 523 enfants en classe de CMP qui n'ont pas d'extrait de naissance dans toute la Côte d'Ivoire. C'est beaucoup.
Et pour que les enfants puissent passer les examens de fin d'année, une dérogation spéciale leur est offerte à travers une opération d'audience foraine. Mamadou Fofana explique la procédure à suivre.
Chaque élève sans extrait de naissance vient avec son parent. Il vient dans l'école et il vient renseigner les 4 fiches. Le directeur d'école dépose à l'IEP et l'IEP maintenant va prendre pour aller déposer soit à la mairie, soit à la sous-préfecture. Mais quand le parent va aller renseigner le papier, il doit déposer le prix du thème qui est de 500 francs. Ceux qui n'auront pas d'extrait de naissance ne pourront pas passer malheureusement les examens cette année. Nous sommes clairs là-dessus.
Le réseau ivoirien pour la promotion de l'éducation encourage les parents à établir les actes de naissance pour les candidats au CEP sans extrait. Toutefois, Nyolou Polo, le responsable du réseau, avertit les parents d'élèves que cette mesure spéciale ne va pas se répéter chaque année.
C'est des mesures exceptionnelles. Ça ne devait même pas avoir lieu chaque année. Les parents devaient tout faire pour pouvoir leur offrir l'extrait de naissance. Du CP1 jusqu'au CM2, ça fait 6 ans. Ça, ce n'est pas normal que le parent laisse l'enfant sans extrait de naissance.
Certains enfants ont voulu s'exprimer.
Je suis Marie-Carole, je suis en classe de CM2. Les parents négligent leurs enfants et puis ils ne prennent pas l'école au sérieux. Quoi.
Pour Malucruciel, j'ai 12 ans. À partir du CP1, si le parent vient écrire son enfant, il doit venir avec l'extrait de naissance pour que l'enfant soit enregistré.
Jimon Oriane Fatima, j'ai 11 ans, je suis en classe de CM2 et ça cause beaucoup de problèmes dans la société.
Par contre, d'autres enfants justifient l'attitude de certains parents.
Souvent, il y a des parents qui ne pensent pas que l'école est forcément obligatoire pour les enfants. Non, ils ne pensent pas, c'est le manque de moyens.
Et cette mère de famille parle sans détour.
Je m'appelle Kofi Tatiana. Surtout dans les villages, les parents préfèrent envoyer leurs enfants dans d'autres activités.
À quelques jours de la fin de cette opération, le ministère lance cet appel à l'endroit des parents concernés. Mamadou Fofana, directeur de la planification et de la statistique au sein du ministère.
Vraiment, nous appelons tous les parents à rentrer dans cette opération-là. Ils payent simplement le prix du thème et de 500 francs.
Delphine Bouise, Abidjan, pour VOA Afrique.
Restez branchés sur VOA Afrique à Abidjan sur 99.0 FM en Côte d'Ivoire.
La journée mondiale de sensibilisation à l'autisme, c'était le 2 avril dernier. En Côte d'Ivoire, ce trouble du neurodéveloppement est encore mal diagnostiqué et bien trop souvent mal perçu dans la société. Mais depuis quelques années, un centre à Abidjan propose à des enfants vulnérables une prise en charge adaptée. La danse semble être une thérapie qui fait ses preuves. Le reportage dans la capitale économique ivoirienne est de Yacine Sio.
Au centre d'action médico-psychosociale de l'enfant, les journées ne commencent pas vraiment comme dans une école classique. Ici, la semaine démarre dans la bonne humeur par un apprentissage de chorégraphie. Âgés de 3 à 22 ans, les enfants inscrits dans ce centre souffrent d'autisme, de déficience intellectuelle ou de trisomie 21. Mais face au rythme et à leur professeur, Mathieu Quadio, tous sont égaux et ont envie d'apprendre. Ce professionnel est aujourd'hui l'un des seuls danseurs thérapeutes du pays. À raison de 2 séances par semaine, il permet à ces enfants vulnérables, généralement mal considérés dans la société ivoirienne, d'accepter, le temps d'une danse, leur handicap.
La danse-thérapie est un bain sonore, rythmique et des ondes, une transmission d'ondes positives parce que ce travail permet aux enfants d'être équilibrés et on permet à ces enfants-là d'être valorisés parce qu'on leur dit qu'il y a de la place pour eux. La danse n'est pas faite que pour des personnes dites autonomes ou dites en bonne santé, elle est faite pour toutes les personnes.
La danse permet à ces enfants de prendre la pleine possession de leur corps, de leur mouvement. Ensemble, ils créent du lien social, eux qui, trop souvent, sont marginalisés et se retrouvent seuls. Et tant pis si la synchronisation n'est pas au rendez-vous, l'essentiel est ailleurs.
En plus, en danse-thérapie, nous ne mettons pas l'accent sur la technique. L'objectif, c'est le lien social. L'objectif, c'est le bien-être. L'objectif, c'est la valorisation de ces personnes. L'objectif, c'est la santé.
Dans ce centre de prise en charge pour enfants à besoins particuliers, on évalue et diagnostique, dans un premier temps, les troubles dont souffre l'enfant avant de lui proposer un suivi individualisé. Une méthode inédite en Côte d'Ivoire où les structures pour enfants en situation de handicap sont quasi inexistantes. Près de 90 enfants sont inscrits dans ce centre qui ne reçoit aucune aide ou presque de l'État et survit grâce à des dons de mécènes et aux frais d'inscription. Une mission aux allures de sacerdoce pour la directrice Miyala Touré Kifolo.
L'objectif du centre, c'est d'abord l'autonomie. Parce que quand ils arrivent ici, vous avez vu la classe des petits, le niveau zéro, ce sont des enfants qui ne sont pas autonomes. Alors nous leur apprenons l'autonomie, les habiletés sociales. Bonjour, merci, au revoir, je veux, donne. En tout cas, les bases même de l'autonomie.
Un accompagnement adapté à l'enfant qui fait le bonheur des parents, souvent démunis dans ces situations. Depuis que son fils de 15 ans, autiste, y est inscrit, Célestine Quadio l'a vu se métamorphoser et devenir autonome. Celle qui est aussi présidente de l'association des parents d'élèves explique le parcours coûteux et difficile à Abidjan pour les parents d'enfants à situation de handicap.
Si ce centre n'existait pas, j'aurais continué comme au début, j'allais chez une ergothérapeute et c'était assez cher. Parce que la séance, je crois, revenait à 20 000 francs, je crois, la séance. Or, il fallait être là-bas chaque semaine. Ensuite, on avait une éducatrice spécialisée qui venait à la maison. Ça aussi, c'était 10 000 francs la séance. Le tout revenait un peu trop cher pour nous. Et là, on n'a même pas encore parlé d'orthophoniste et tout. Le coût global revient beaucoup plus cher que d'être dans un centre comme celui-ci. C'est plus économique pour nous que d'être avec différents intervenants, en fait.
La méthode plaît aux enfants autant qu'aux parents. Les demandes d'inscription affluent et la directrice étudie un projet de délocalisation du centre actuel vers un site de 1000 m² et la construction à moyen terme d'un second centre, toujours pour danser, apprendre et s'autonomiser. Yacine Sio pour VOA Afrique, Abidjan.
Le Monde aujourd'hui, c'est la fin de cette édition. Merci de l'avoir suivi. Jean-Roger Billon à ce micro, à la mise en onde de Lionel Gaïma. Un grand merci à la rédaction et à toute l'équipe de production. Rendez-vous sur notre site internet voafrique.com et nos pages Facebook, YouTube, Twitter et Instagram pour un suivi de l'actualité 24 heures sur 24. Je vous souhaite une excellente soirée à l'écoute.